Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Avec sa compagne Margot, Mathieu est installé depuis peu en maraîchage bio sur la commune du Viala du Tarn. Il nous raconte son métier et son parcours dans cette récente reconversion. Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Alors je m'appelle Mathieu De Bruyne, je vais avoir 40 ans et je suis installé donc sur la commune du Viala du Tarn avec mon épouse Margot qui a 32 ans. Nous avons deux enfants, donc Gaston qui a un peu plus de 3 ans et Jeanne qui a 15 mois.
D'accord, voilà. De jeunes enfants.
De jeunes enfants.
Et le nom de votre ferme ?
Alors le nom, ça s'appelle M Bio Jardin.
M Bio Jardin.
En fait, on est originaire de Belgique. Ah. Et c'est un petit clin d'œil par rapport à nos origines. Quoi. C'est un petit peu de patois.
C'est patois belge.
Il faut être du Nord ou de Belgique pour comprendre.
D'accord. Et qu'est-ce que vous faites sur votre exploitation, sur votre ferme ? Vous produisez
Alors,
quoi ?
En fait, on cultive principalement des légumes et des fruits. Donc, on doit avoir une vingtaine de légumes différents et une quinzaine de fruits, d'arbres fruitiers différents. Mm-hmm. Donc, maraîchage diversifié, arboriculture. Et puis, on fait également de la transformation, donc des confitures et des soupes.
Vous transformez vous-même sur place ?
On transforme sur place. Ça, c'est la partie de Margot. Donc, c'est elle qui s'en occupe de A à Z.
D'accord.
Mais c'est une partie non négligeable de notre travail et de nos revenus.
Oui, ça valorise le produit, la production.
Ouais.
Quoi.
Ouais. En fait, tout ce qui est soupe, c'est on fait pas de la soupe pour faire de la soupe. C'est les invendus qui vont à la soupe. Et,
d'accord.
Par contre, les confitures, on ramasse pour faire de la confiture.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a pris de vouloir faire du maraîchage ? T'as toujours été dans l'agriculture, toi ?
Alors, moi, donc c'est une reconversion complète hein, pour nous deux. Parce qu'à l'origine, moi, je suis prof de sport. Et Margot était masseuse dans un centre de bien-être dans l'Hérault. Donc, on habitait dans l'Hérault tous les deux. Enfin, ensemble, oui. Et puis, on avait envie de fonder une famille. Mais ce qu'à nos deux métiers respectifs nous faisait travailler les week-ends et les vacances. Et donc, on avait envie de voir nos enfants. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir profiter de notre famille. Et bien, donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers l'agriculture, faire une ferme bien-être pédagogique au sens large du terme. Après, c'est sûr qu'on travaille les week-ends
et les jours fériés et les vacances,
mais au moins nos enfants sont à côté de nous.
Ouais.
Voilà, c'est ça la grande différence. Et puis, dans un cadre qui est quand même. Qui est quand même plutôt sympa.
Oui, alors là, on est dans une toute petite vallée d'un petit ruisseau. Comment il s'appelle le ruisseau, tu le sais ?
La Nock.
La Nock. Ah oui, le Nock. Qui va se jeter au Mas de l'Anneau.
Au Mas de l'Anneau.
D'accord,
ouais.
Dans le Tarn.
Ouais.
Vous avez combien d'hectares là, ici, pour faire pousser vos fruits et vos légumes ?
Alors, en fait, on est propriétaire de 4 hectares et on a 5000 m² en fermage au bord du Tarn.
D'accord.
Mais il y a plus ou moins 1 hectare et demi de cultivables.
Donc, ça suffit pour faire vivre la famille.
Ah, largement, oui.
Ouais.
Enfin, généralement, on dit que 5000 m² par personne, c'est suffisant. Là, Mais on travaille à plus qu'à nous deux également. Il y a d'autres personnes qui interviennent ponctuellement, on va dire, pour nous filer un coup de main pendant les pics de travail, on va dire. Les jours de récolte. Voilà.
Et des fois, il faut des bras en plus.
Voilà. Donc, deux jours par semaine, on a la maman de Margot qui vient nous aider. Et puis. Une personne ou l'autre supplémentaire par moment.
Et j'ai vu donc vous avez pas mal de serres. Combien de serres à peu près ?
Alors on a
en mètre carré, tu sais.
En mètre carré, donc on a 1000 mètres carrés de serres cultivables.
D'accord.
Ouais.
Au total.
Au total.
D'accord. Et c'est sur 5, 6 serres ?
Il y en a 7 en tout. Ouais.
7.
Donc il y a des serres de formats différents. Mmh. Ça va du 4,50 m de large au 9,30 m.
Et pourquoi tu as choisi le maraîchage ? Enfin, vous avez choisi le maraîchage. Vous auriez pu faire un autre type d'exploitation en venant en Aveyron, notamment. La brebis est très domine le secteur économique de l'agriculture.
Ouais,
pourquoi
en fait.
Vous êtes en bio, en fait, non ?
On est en bio, oui, tout à fait. On aurait pu choisir autre chose, hein, mais c'est la première idée qui nous est venue à l'esprit. Hein. Mmh. Parce que. venant de Belgique et ayant vécu quelques années dans l'Hérault, la brebis, on n'en entendait pas du tout parler, donc on ne s'est même pas posé la question, mais c'est vrai qu'on aurait pu... Enfin, quoique, je reviens un petit peu sur ce que je dis, parce qu'on a visité quand même pas mal de fermes différentes, dont des brebis laitières, qui cherchaient des potentiels associés. Après, on avait quand même plus dans l'esprit de s'installer et d'être nos, entre guillemets, propres patrons. Ouais. Donc, on est tombé sur cette exploitation qui était à reprendre, parce que c'était un couple qui partait à la retraite.
D'accord. C'était quand, ça ?
Donc, en novembre 2019. Donc, ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi. Donc, on a racheté, en fait, une exploitation qui était en place et qui tournait bien, hein, avec la commercialisation qui en découle. Donc, oui. Par rapport à d'autres jeunes qui s'installent, qui ont tout à monter, on est quand même relativement vernis.
D'accord, vous êtes arrivé sur quelque chose de bien, bien bâti, déjà bien construit.
Voilà, ouais, et puis ouais, de rentable tout de suite, ouais. dès la première année, ce qui est quand même pas mal.
Vous avez fait des formations pour devenir maraîcher ou...
Alors moi j'ai fait une formation, donc j'ai un brevet professionnel en aménagement paysager. Donc c'est pour être paysagiste en gros, hein, mais il y avait quand même une grande option, c'est création et entretien d'un verger sec. Et donc c'était relatif à l'arboriculture en gros. Hein.
Plus spécifique au climat héroleté quelque part.
Voilà, exactement. Ouais. Mais peut-être que dans 10 ans, on devra quand même développer ce genre de pratique. Donc j'ai suivi cette formation en 2016. Et Margot a fait l'équivalent de la même formation, mais en maraîchage, d'accord. À la Cazotte, à Sainte-Afrique.
D'accord,
à
Sainte-Afrique.
Voilà. Donc on a tous les deux un brevet professionnel en agriculture. Et puis dans la foulée, ben, moi je me suis installé sur la couveuse maraîchère de Sainte-Afrique pendant plus ou moins 2 ans. Margot, à l'issue de sa formation, a pris la suite. Parce que moi, pendant ce temps-là, je suis venu faire ce qu'on appelle un CEFI. Un CEFI, c'est un contrat emploi formation installation. Donc c'est les cédants en fait qui me prenaient comme stagiaire en fait, hein, pour nous donner toutes les ficelles de l'exploitation existante.
Bon, alors ça fait grosso modo un an et demi que vous êtes installé ici. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous en vivez bien?
Alors comme je le disais précédemment, donc on a récupéré une exploitation qui était rentable, hein, qui fonctionnait, parce que bah, nos prédécesseurs arrivaient à économiser pour leur retraite. Nous, après, on a dû racheter l'exploitation, donc ça veut dire qu'on a dû passer par un crédit via les banques. Donc on économise, on n'épargne rien pour l'instant, mais on en vit. Ça veut dire que ouais, financièrement, ben, on arrive à subvenir à nos besoins pour une famille de 4 sans trop de problèmes.
Et les vacances, vous y pensez ou pas? Vous prenez des vacances des fois ou pas?
Ah ben on a pris 5 jours de vacances au mois de décembre. Après, ouais, il y a des circonstances. Hein. J'ai dû faire une petite intervention chirurgicale, rien de bien méchant, mais au mois de janvier. Donc du coup, j'ai été immobilisé pendant un mois. Rien de bien méchant, mais ça nous a empêché de partir en vacances.
D'accord.
Et puis j'ai anticipé un petit peu le travail de la suite, sachant que je serai inactif pendant un mois, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais sinon, je pense que...
Ouais, mais les vacances, grosso modo, c'est un hiver, quoi.
Ouais. En fait, nous, on cherche à s'associer avec quelqu'un pour pouvoir s'octroyer des week-ends et des vacances pendant l'été, pour avoir des vacances avec nos enfants. Hein. Mais on n'a pas encore trouvé la perle rare. Mais c'est l'objectif à moyen ou à long terme.
Et donc, vous êtes arrivé sur un modèle économique déjà préexistant. Et comment vous vendez votre production alors?
Alors, nos prédécesseurs étaient associés du marché paysan à Millau, qui est un magasin de producteurs, qui tourne très très fort, qui est en place depuis 2003, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel il y a un chiffre d'affaires qui est vraiment important. On écoule à environ 60% de notre commercialisation là-bas. Et donc, ça veut dire que comme on est associé, Margot fait des permanences en fonction du chiffre d'affaires.
C'est calculé sur le chiffre d'affaires, le temps de permanence?
Voilà, exactement. Passer pour être juste par rapport aux différents producteurs. Hein. Donc, le producteur qui fait, je ne sais pas, je vais donner un bête exemple, qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires ou celui qui en fait 100 000, je trouve ça logique qu'il y ait une différence d'heures de permanence qui soit effectuée. Donc le marché paysan, puis après on fait le marché de Millau le vendredi matin sur la place Foch. On fait le marché d'été de Sarrambe de Tarn.
D'accord.
Qui est un petit marché où il y a beaucoup de monde grâce au camping.
Ouais.
Marché de producteurs, ouais.
Aussi.
Dans lequel on est un petit peu investi aussi au niveau de l'association. Et alors, on livre également l'épicerie d'El Pais à Saint-Afrique. Et puis, deux ou trois restaurants locaux, on va dire.
D'accord. Et vous leur livrez plutôt des légumes ou plutôt des produits transformés ?
Plutôt des légumes. En fait, au marché paysan, on est associé et on est prioritaire sur les créneaux suivants. Donc, les fraises, les fraises, framboises, mûres, groseilles, les petits fruits rouges, en fait. Ouais. Les confitures, les soupes, les butternuts et les potimarrons, les radis et les patates primeurs. Donc ça veut dire que sur toutes ces cultures-là, on est prioritaire. Donc tant que nous, on a ces productions, il n'y a que nous qui amenons ces cultures-là au magasin.
Et le jour où vous n'en avez pas, c'est un autre qui peut
voilà, proposer. Voilà, qui prend la suite, ouais.
Et le reste de votre production, alors, vous les coulez comment ? Par les marchés ?
Par les marchés, ouais.
Et alors, toi, de ce que tu en tires comme expérience, un métier que tu conseillerais, quand tu vas voir la famille qui te parle de ta reconversion, tu leur vends le métier d'agriculteur ou tu les mets plutôt en garde, ceux que ça intéresse ?
Disons que les gens qui viennent nous rendre visite se viennent régulièrement pendant des périodes de vacances où est-ce qu'on essaye de se dégager un peu de temps pour passer du temps avec eux, et donc ils ont parfois l'impression que, que le métier c'est la plage,
c'est
cool, ouais. Ouais, mais moi déjà de 1 j'aurais jamais envisagé ce métier seul, donc je l'aurais jamais fait si c'était pas avec Margot, parce que bah, je connais le caractère de Margot, hein, qui est très vaillante quand même, qui est dure à la tâche, hein, qui s'accroche fort. Et je déconseillerais absolument de le faire tout seul. Ouais.
Ah.
On a un confrère qui s'est installé seul. Mais des fois, on se demande comment il fait. Mais après, il y a des techniques qui est quand même beaucoup plus mécanisé que nous, qui lui facilitent la tâche, entre guillemets. Mais après, ça a d'autres contraintes. Hein, mais il envisage d'engager des saisonniers pour la saison, ouais, parce qu'il se rend bien compte que seul c'est éreintant, et il dit également qu'il compte pas travailler comme ça toute sa carrière. Il faudra trouver d'autres solutions. Ouais. En 3 ans, 4 ans de maraîchage, on a quand même réussi à se créer un petit réseau qui commence à être sympa, là, aussi bien au niveau des paysans voisins qui nous donnent du fumier, qui filent un coup de main quand il faut. Et puis ouais, la famille, etc. Donc on a quand même des... On n'est pas seul, quoi. Seul, moi, je pense que c'est compliqué, ouais. Ou alors, il faut vraiment être solitaire. Ouais. Mais même au sein d'un couple, travailler à deux, c'est rarement évident quand même, hein, parce qu'on a des logiques complètement différentes, des manières de faire complètement différentes, pour finalement avoir le même résultat, mais en passant par des itinéraires différents. Et donc, il faut accorder ses violons. Hein.
Ah. Oui, c'est compliqué peut-être, non, de travailler en couple, parce que grosso modo... Ce qui se passe à la maison, ça vient au travail. Ce qui se passe au travail, ça vient à la maison. Et quelque part, il n'y a jamais eu de temps de répit, quoi.
On est à fond dans cette réflexion-là, parce que on se rend bien compte qu'il y a parfois des prises de tête qui pourraient être évitées.
Ouais.
Et donc, moi, j'ai envie de m'orienter vers des séparations de travail. Je veux dire, Margot était responsable de la partie transformation, je m'en mêle pas. Et puis moi, d'autres parties, la préparation des terres, etc., c'est moi qui m'en occupe. Chacun fait un peu à ce mode, comme on dit chez nous. Je fais un peu à sa sauce, quoi, pour résumer. Parce que sinon, c'est vrai que au niveau de la préparation de la saison, c'est plus moi qui suis dans la réflexion. Et donc, ouais, c'est avec ma logique. Donc c'est
avec le temps qu'il va falloir trouver un fonctionnement amélioré au fur et à mesure.
Ah bon, ça fait que, avec la formation, avec les enfants qui sont arrivés, Margot, elle n'a pas encore travaillé une saison complète, donc on doit encore trouver notre équilibre à ce niveau-là. Ouais.
Ouais. Et alors, j'ai ma grande question philosophique. L'agriculture dans le futur, est-ce que tu as une idée? Déjà, est-ce que tu te fais une idée du parcours, du chemin qui a été fait entre il y a 20 ans et aujourd'hui, et ce que ça pourrait donner dans quelques années? Est-ce que tu as une idée, toi?
Alors nous, on n'a que 4 ans d'expérience.
Ouais.
Et donc ce qui se passait avant les 4 ans, on n'en faisait que moyennement attention, parce qu'on était à fond dans nos métiers précédents. Hein,
oui, des sports, passions, en plus.
Clairement, donc on ne se souciait pas trop de l'agriculture et de ses manières de faire. Hein. Ce qui est dommage d'ailleurs, hein, mais et avec les 4 ans d'expérience, comment est-ce que ça va se passer à moyen ou à long terme? On n'en est pas trop à cette réflexion-là, mais on aura quand même une sacrée prise de conscience sur, sur des techniques qu'il faut clairement arrêter. Hein. Ouais. La grande distribution, etc., c'est une catastrophe pour les petits agriculteurs comme nous. Hein. Donc, ouais. Nous, avec le peu d'expérience qu'on a maintenant, c'est devenu hors de question de vendre par plusieurs intermédiaires. On veut absolument privilégier la vente directe pour valoriser un maximum nos produits. Ouais. Un bête exemple, hein, en vente directe au magasin ou sur le marché dans lequel on est associé, le magasin nous prend 5% de commission. Donc c'est vraiment rien du tout. Là où, quand on passe par une biocoop ou un revendeur, généralement c'est 30 voire 40% de commission. Ah bah oui. Donc c'est pas du tout la même chose.
Ah ouais, ouais, ouais.
Donc si on prend la tomate, bah, on la vend 4,50€ sur le marché, bah, au magasin on va la vendre 3,50€. Ouais. Donc si on passe 200 kg par semaine, faites le calcul, ça fait 200€ de différence par semaine. Ouais. Et puis il y a aussi un contact direct avec le client, qui est quand même pas mal non plus. Hein. Ouais. Après que ce soit positif ou négatif, hein, on a le retour immédiat de la qualité de nos produits. Quoi, hein. Ouais. Après la régularité des gens sur le marché, c'est quand même une preuve de satisfaction.
Oui, c'est ça. Les gens qui reviennent en général, c'est qu'ils sont contents.
Voilà, ouais. Exactement. D'accord. Mais au niveau des pratiques et puis de la PAC, là, de la politique agricole commune, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas trop parce que les maraîchers n'y ont pas vraiment droit. Donc, ouais. C'est d'ailleurs un peu dommage. Hein,
ouais, trop petite surface.
Trop petite surface, mais ouais. Quelle est la logique là-dedans? Je pense qu'il n'y en a pas. Ouais, ouais. Et donc là, au niveau politique, il y a quand même une grosse remise en question à avoir. Ça me dépasse un petit peu, mais vu la charge de travail et la multitude de connaissances qu'il faut avoir pour effectuer ce métier-là, je trouve que c'est un métier qui est sous-valorisé. Ouais. Il y a quelque chose de pas logique, hein. C'est un des métiers essentiels. Et donc là, je trouve qu'au niveau politique, il y aurait quand même des choses à mettre en place pour valoriser plus ces métiers. En saison, c'est du 60 heures semaine. Ouais. Lissé sur l'année, on est au minimum à 40-45 heures chacun par semaine. Ouais. Et on se sort à un SMIC tous les deux, quoi. Hein. Donc, c'est déjà bien parce que c'est pas le cas de nombreux maraîchers qui s'installent. Donc on est déjà content avec ça, mais je trouve que c'est un peu light quand même. En termes de charge sur une année, c'est monstrueux ce qu'on dépense.
C'est plus que la moitié.
Ah ben, enfin, moi je veux bien donner les chiffres, j'ai pas de mal avec ça. Hein. Sur 72 000 de chiffre d'affaires qu'on a fait l'année dernière, il y a entre 35 et 40 000€ de charges.
Wow.
Entre la sécu, les assurances, après il y a le crédit de l'exploitation, de la maison, etc. Mais c'est enfin, moi je trouve que c'est monstrueux. Hein,
c'est créer beaucoup de richesses pour en garder très peu. Quoi,
ouais. Et puis au final, comme la saison actuelle qui démarre, donc entre la sécheresse du mois de mars, les gelées tardives du mois d'avril, et puis le vent, on ne peut pas parler de grêle, etc., des aléas climatiques, ce qui peut se passer. C'est une des raisons pour laquelle on a ajouté des serres, pour essayer de se protéger un minimum des aléas climatiques. Parce que, et même sous serre, hein, on a eu des gelées, par exemple, sur les fraisiers, là, cet hiver.
Sous serre.
Ouais. Ah ben mince. Qui ont diminué le rendement, du coup, espéré. Mais après, ouais, c'est un peu des erreurs de jeunesse aussi. Hein, on aurait dû encore prendre plus de précautions.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires. Je croyais être heureux. Mais il y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, et il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
Mais moi, je voudrais mettre 40 poules, mais j'ai pas encore réussi à la convaincre.
Ah.
Bon, c'est pas, ouais, heureusement que c'est pas filmé parce que
donc,
c'est
pas... D'accord.
C'est encore cras du mois de janvier.
Ah.
Parce qu'on a pas eu le temps.
Ah, pas fait le ménage.
De nettoyer. Ouais. Mais là, si on a un contrôle, c'est sûr qu'on est pas.
Donc oui, non, mais là, ouais, vous avez encore rien fait. Donc ben, voilà, de l'inox,
local,
des frigos, des éviers.
Ouais, et puis après, ben, tout ce qu'il faut pour faire les confitures.
Ouais.
Ça,
oui, c'est quoi cette machine?
Une épépineuse pour enlever les noyaux.
Uh-huh.
Et enfin, c'est Margot qui s'en occupe, donc je connais pas.
Je sais pas comment ça marche.
Je sais pas comment ça marche, non.
ça marche.
J'ai jamais fait la confiture.
D'accord.
Là, c'est une sorbetière.
Une sorbetière, ah,
ouais.
Vous faites ça?
Ils faisaient, mais pour l'instant, on n'a pas encore fait parce que. De leur propre avis, en fait, ils avaient lancé ça dans leurs dernières années,
ouais,
pour diversifier un peu ce qu'ils faisaient,
mmh,
pour retrouver un petit peu de motivation. Et ils se sont aperçus que c'était pas hyper rentable.
Mmh.
Et donc, pour l'instant, on n'en fait pas parce que on va à l'essentiel, on va dire ça.
D'accord,
comme ça.
D'accord. Mais bon, vous l'avez là,
au cas là, peut-être qu'on la revendra parce que je suis pas certain qu'on en fera.
D'accord.
On pourrait amener les sorbets au magasin, mais.
Et t'as une idée de la quantité de pots de confiture ou de pots de soupe que vous produisez par an?
Eh bien, j'ai une idée du chiffre d'affaires.
Mais ça se compte en centaines de pots, en milliers en...
5000 pots.
Ouais. Ah ouais, quand ouais, même.
Bon, on va aller voir le stock. Hein.
Allez.
Ouais. Puis après, il y a une grande partie quand même de l'exploitation qui est autour de la fraise. Hein. Ça, c'est quand même la... Ouais, je pense de nouveau, c'est un quart du chiffre d'affaires. Autour de la fraise, ouais.
D'accord.
Donc on a plus ou moins 2000 fraisiers.
Uh-huh.
Là, il y en a 900, par exemple.
Là, sur cette parcelle-là,
ouais, 900, là.
Alors là, on a une parcelle de, je dirais, 12 mètres sur 40
sur 25, ouais.
25
ouais.
Et là, il y a 900 fraises.
300 mètres carrés, plus ou moins.
Et oui, c'est pratique, la fraise, la saison est courte, non?
Ou non, ça c'est pas vrai.
Ah parce, ouais, que... Non, parce que moi j'ai des garriguettes à la maison, ça dure pas longtemps.
Mais ça c'est les fraisiers de printemps. Là c'est des remontants. Donc ça veut dire qu'ils produisent au printemps.
Plusieurs fois dans l'année.
Et puis après, donc ils vont produire, ils vont seulement mettre. Ça c'est des nouveaux, donc ils n'ont pas encore produit. Mais ceux qui produisent, ils viennent de démarrer jusqu'au 15 juin, plus ou moins. Mmh. Puis après, ils font une pause jusqu'au 15 juillet, et puis du 15 juillet jusqu'au gelé. Mais l'année dernière, on a ramassé encore le 30 novembre.
Waouh.
Donc la saison, elle est.
Elle fait 5 mois
quand même. Hein.
Ah ouais.
Et d'ailleurs, au mois de novembre, on n'attendait qu'une chose, c'est qu'il gèle. Pour qu'il n'y en ait plus. Parce qu'on en avait marre de ramasser. Mais en dessous des fraisiers, par exemple, là, il y a des goutte à goutte à chaque fois.
Là, des fraisiers, ils sont très denses.
Là, il y en a 500, plus de 100.
Et c'est quelle variété alors ?
Mara des Bois.
Mara des Bois ?
Ouais, c'est la meilleure.
Vous avez que ça ?
Non, Mara des Bois, et ça, c'est les sifflerettes.
D'accord. Donc c'est la meilleure au niveau gustatif, tu veux dire ?
Ouais. Après, les fruits sont petits, des maras des bois.
Ouais.
Mais au niveau du goût, l'été, quand il y a bien du soleil, elle est très sucrée.
Et c'est
sucrée,
plutôt destiné à la confiture ou à dégustation
On en vend principalement en frais.
D'accord.
Et puis après, on transforme... on doit faire 100 kilos de confiture. 100 kilos de fraises pour la confiture. Ouais. Donc ça doit faire 400 pots de confiture, un truc comme
d'accord.
ça.
D'accord. Vous n'avez pas une variété dédiée à la confiture, une
non,
autre
non.
D'accord. Donc on passe tunnel sur tunnel, il n'y a que des fraisiers. Sur la gauche, là, c'est des groseilles.
Des framboises.
Des framboises, pardon.
Et mûriers, là-bas.
Alors, j'ai pas précisé, j'y connais rien en agriculture, je pose beaucoup les questions, quoi.
Voilà. Pas de soucis.
Ça te dérange pas.
J'aurais pu faire ça il y a 4 ans.
Donc là, tu m'as dit...
Framboisier,
et les groseilles sont derrière.
Mûriers, derrière.
Mûriers, ah ouais.
Des mûres cultivés, sans épines.
Une groseille, c'est une variété de mûres, non ?
Pas du tout.
Non ?
Les groseilles, elles sont là-bas.
Ah.
Mais on n'en aura pas cette année parce qu'elles ont gelé. En fait, en théorie, on doit avoir les groseilles au mois de juin, les mûres au mois de juillet et les framboises au mois d'août.
D'accord. Ça, c'est la théorie.
Ah, la théorie, oui. Mais on n'aura déjà pas de groseilles cette année. Le reste, ça devrait venir. Si on arrive à désherber en temps et en heure, ce qui reste à désherber. Ouais.
Et tu t'es renseigné, les autres paysans, c'est pareil, ils ont perdu beaucoup ? Avec le gel
En tout cas, tout ce qui est arboriculteur, viticulteur, ils ont perdu énormément.
Ouais.
Les autres maraîchers, je sais pas trop. Pas en trop. Vrai,
ça dépend si les serres étaient bien isolées ou pas, quoi.
Ouais, mais les autres maraîchers que je connais, en fait, font pas de petits fruits. Donc, sur les légumes, il y a quand même eu moins de pertes. Hein, nous, tout ce qui était sous serre, les légumes précoces, ils sont passés à travers. Donc, je veux dire, ils n'ont pas gelé, les tomates, etc. Ça, okay. On les avait voilés, on a mis du voile chat tous les soirs. Ouais. on a réussi à les protéger. Ouais. Là, par exemple, cette serre-ci, on voit encore les voiles là-bas en haut.
Ouais.
Tous les soirs, c'était remettre les voiles de partout.
D'accord.
À chaque fois qu'ils menaçaient d'avoir du gel les nuits, et cet hiver, on a eu, je pense, en tout et pour tout, une trentaine de nuits avec du gel quand même. Ah. Donc, c'est-à-dire tous les matins, les enlever, tous les soirs, les remettre.
Ça doit être long, non, de mettre tous les voiles là
Ah, c'est pas le travail le plus passionnant. Hein. ça pose question sur est-ce qu'il faut vraiment tenter de faire du primeur quand on voit l'ingratitude des tâches qu'il faut faire pour y arriver. Mais c'est le travail qui paye.
Oui, donc, c'est avantageux, non, quand même, d'être primeur. Ouais,
ça permet
les gens, ils attendent, quoi.
Un bête exemple, sur les courgettes qu'on vend maintenant, on les vend 4,50€ le kilo, là où, en pleine saison, on les vend 1,50€.
Ah.
Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Hein.
Ah oui,
d'accord. Il n'y a pas photo, ouais.
Et alors, tu me fais penser, j'ai une question... comment tu fais pour t'organiser sur l'année ? Tu as un calendrier sur lequel tu sais que... Tu notes telle première quinzaine, ou tel jour, ou telle lune, je fais ça, tel moment je fais ça. T'as un calendrier chez toi que tu respectes ?
C'est une bonne question. En fait, au mois de fin novembre, début décembre, on fait un peu le bilan de l'année, niveau comptable, puis qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On reprend l'agenda de l'année précédente, avec les choses qu'on a pu écrire dedans, et on prend l'agenda de l'année qui arrive. Hein, nous, on fonctionne comme ça, en tout cas, on note toutes les dates de semis, sur l'ensemble de l'année, en fonction de la lune, si possible. Pour les semis, ça, c'est jouable. Après, pour ce qui est plantation, c'est un peu en fonction de la météo. Hein. La lune, nous, on la respecte plus trop parce que c'est pas toujours possible. S'il pleut, mais que c'est bon jour pour planter, c'est pas toujours simple. Donc, c'est un peu le calendrier qui organise le travail. Ouais.
D'accord.
Donc, on achète le jardinier. Je jardine avec la lune, là. Ouais. C'est lui qui structure notre travail, en tout cas pour la partie semis et puis pour les dates bien choisies.
Ouais, d'accord. Donc, grosso modo, tu t'organises en fonction d'un calendrier préétabli, plus en fonction de la météo.
Exactement.
D'accord.
c'est un petit peu réfléchi.
Ça se prend la tête, les agriculteurs. Mais je crois qu'ils étaient abrutis, les agriculteurs, étonnant, mais pas tant, en fait.
J'allais dire étonnant pour un prof de sport.
Ouais, c'est vrai. Putain, tu cumules, toi, en plus.
Ah, ouais, c'est ça. Prof de sport, maraîcher, je sais pas si ça pourrait réussir.
Ah, tu vas chercher loin. Hein. Donc là, on a une autre serre qui est vachement haute. Donc c'est celle qu'il y avait quand vous êtes arrivé. La seule qu'il y avait.
C'est celle qui était en place. C'est une serre qui est costaud.
Ah oui.
Qui est vraiment hyper,
les montants,
hyper
ils sont énormes.
Ouais. Bon, après, à terme, il faudra remplacer la bâche parce que.
Elle est un peu vieille.
Elle est un peu vieille, ouais. Mais l'avantage, c'est que quand il fait super chaud, comme elle est plus tout à fait transparente, bah, il fait moins chaud dedans quand même. Ouais. Donc c'est désavantageux pour la précocité, mais pour la pleine saison.
Il y en a, ils blanchissent les bâches.
Ouais, bah, c'est ce qu'on fait aussi. Ouais.
D'accord.
Ouais, quand il fait vraiment trop chaud, parce que sinon c'est intenable, hein. On peut faire 60 degrés des fois dedans.
Ouais, c'est ça, c'est fou.
Voilà notre pépinière.
D'accord, ah, plein de semis par terre, enfin plein de petits plants.
Il nous reste plein de plants de fraisiers
à vendre.
On en a fait trop.
Ah mince.
On cherche à le.
Tu cherches à les vendre.
Voilà notre pépinière, notre pouponnière.
Ouais. Ouf, c'est bon.
Donc ça c'est les graines de butternuts
ouais.
qu'on a faites nous-mêmes, donc la levée elle est,
ouais, ça donne
c'est
bien.
Quasiment 100%, donc, c'est, et donc ça nous coûte zéro,
ouais.
Ça c'est pas mal, ouais. En plus c'est adapté.
Et c'est cher les graines ?
Bah tout dépend de la graine, mais la graine de concombre ça peut être quasiment 1€ pièce. Ouais.
Hé hey, la graine ?
De concombre, attention. Hein.
Ah.
Par contre les tomates ça coûte rien du tout, les graines de tomates c'est 9€ pour 500 graines, donc là,
d'accord.
Ça dépend des légumes vraiment.
Ouais ouais. Bah dis donc,
il y a des choix à faire.
C'est super cher le concombre.
Bah, c'est pour ça que peut-être qu'à terme, on fera des graines de concombre.
Mieux que tu le fasses
toi. Mmh. Ouais. Là, on a Margot qui plante les céleri branches.
D'accord. Combien de planches vous allez faire de céleri ?
Alors, on met une planche.
Il y a plein de cagettes. Tout ça, toutes ces cagettes-là, c'est du céleri ?
Ça, c'est les céleri raves. Donc, en fait, sur cette parcelle-ci, on a 160 courgettes,
ouais.
160 tomates, 80 aubergines. Mmh. Une planche de céleri branche, puis après on a 6 lignes de patates douces.
Ah oui.
On les voit pas trop hein, parce que
oui, on voit petites, hein. ça sort. Ouais. Là.
Et puis après les céleri raves vont venir à côté.
D'accord.
Puis on a des choux rouges, des choux blancs.
Qui sont dans les
voiles. Ouais. Et puis des oignons là-bas dans le fond. Ouais.
D'accord.
Et tout au bout on a semé des fleurs.
Ah.
Pour essayer d'attirer des
pollinisateurs.
Eh
ben oui.
Voilà. Après dans nos pratiques on essaye de par rapport à tout ce qui est pollinisation, de respecter un peu au maximum tout ce qui est bio. Hein. Ouais. On passe devant de la tanaisie, donc c'est des fleurs.
Ce bosquet là, comme ça là.
Qu'on essaie de conserver, qui vont faire des fleurs jaunes.
Ouais.
C'est encore un peu tôt. Hein. En fait, ça attire les. C'est insectifuge, pardon.
Hein.
Ou insecticide, je ne sais plus, un des deux. Et donc ça fait fuir certains insectes, ou ça les attire.
Mmh.
Et avec des décoctions, on peut lutter contre les pucerons.
D'accord.
Donc on ne met pas de pesticides, mais on se sert de plantes pour la lutte.
Oui, faire des purines et des concoctions, des trucs comme ça. Ouais.
Purin de prêle, purin d'ortie, purin consoude, etc. C'est Pierrot qui nous a transmis tout ça.
Oui. Eh bien Mathieu, je te remercie. Merci d'avoir pris ce temps pour discuter avec nous.
Eh ben, ça tombait pile poil parce que cet après-midi j'étais de babysitting. Donc
voilà,
j'avais du temps.
Voilà, c'était ton rôle de papa.
Voilà.
Ben, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci à Mathieu pour son accueil, la glace à l'eau et la restitution de la casquette de notre jeune stagiaire. Parole rurale est diffusée les mardis à 8h10, jeudi à 18h et dimanche à 14h. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.